Aujourd'hui, la masterclass de Claire Denis avec Émilie Chaudet.
Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents parmi nous pour cette masterclass sur France Culture au studio 105 de la Maison de la Radio. Bonjour Claire Denis.
Bonjour.
Vous avez dit un jour, Claire Denis, que vous êtes entrée dans le cinéma comme par effraction. Cette expression-là, elle fait écho aux premières images de certains de vos films, des images de désir, tout d'abord, sur un tronçon de périphérique, dans une boîte de nuit à Djibouti, dans un lit tout blanc au drap défait, des images aussi d'une fin du monde. Une jeune fille nue qui marche sur un trottoir la nuit, une maison qui brûle, un bébé qui pleure dans un vaisseau spatial presque vide, ou une femme qui quitte sa vie d'avant entourée de ses cartons. Des images sans titre, tout d'abord. Celui-ci vient un tout petit peu plus tard, comme si le film commençait un peu avant qu'il ne commence vraiment. Et c'est peut-être parce que vous vous dites attirée, Claire Denis, par ces hommes à la marge qui traversent à pied un espace étranger, que vous voulez aussi nous y emmener dans cet espace-là, entre la sensation de la vie réelle et celle du film qui commence. Alors, Claire Denis, à quel moment s'imposent ces images-là de départ, d'ouverture ? Et est-ce que ce sont celles qui vous viennent en premier, ces images-là, premières images à l'écriture du film ?
En fait, pas toujours. Parfois, les premières images qui viennent, elles sont très très importantes. Elles vont me faire croire que le film peut exister. Il faut qu'il y ait des images qui scellent la possibilité d'un film. Mais parfois, c'est pas vraiment l'ouverture. Souvent, c'est l'ouverture. Mais pas toujours. Non, je pense que quand j'avais dit « par effraction », je le ressens encore. Il y a quelque chose, le monde du cinéma, il est vaste et majestueux parfois. En tout cas, il est aussi un tout petit peu interdit ou parfois sectaire. Il n'est pas ouvert à tout vent. C'est pas comme sortir de chez soi, marcher dans la rue, rentrer dans un jardin. Il y a des grilles, il y a des portes, il y a des codes. Et quand j'ai pensé que j'allais peut-être faire du cinéma, je me disais, mais comment faire pour entrer par la petite porte ou par la fenêtre de derrière ? Parce que je ne voyais pas du tout un cinéma accueillant pour moi. Voilà.
Pourtant, vous vous êtes senti plutôt bien, disiez-vous, à l'IDEC, qui est aujourd'hui la FEMIS, l'école de cinéma où vous avez étudié et où vous en êtes ressorti en 1972, à l'âge de 26 ans à peu près.
Oh, peut-être un peu plus jeune quand même.
24.
Je sais plus. Oui, je suis rentrée à l'IDEC un peu, justement, parce que peut-être, après avoir trouvé un stage à Télé Niger, ce qui était un peu tarabiscoté pour arriver dans le monde du cinéma. C'était une maison de production qui fabriquait des films didactiques pour des écoles au Niger, c'est-à-dire pour économiser des profs. On avait imaginé, pas économiser des profs pour faire des économies, mais parce que les villages étaient distants les uns des autres, pas forcément bien desservis, on s'était dit, au fond, si on faisait une espèce d'unité centrale et qu'on pouvait diffuser sur des écrans des cours, ça permettrait à plus d'écoles de vivre au Niger. Alors voilà. Moi, en tout cas, le premier film que j'ai fait, c'était un film sur l'hygiène de la maison. C'était « Pourquoi le moustique pique ?» Voilà. Après, je suis rentrée à l'IDEC, voilà. Et à l'IDEC, j'étais heureuse, parce que j'étais à l'abri. C'était pas du tout le cinéma, l'IDEC. Il y avait un directeur, Louis Daquin, un metteur en scène, qui avait été un peu évacué du cinéma pour son militantisme. Il était un militant du Parti communiste, il avait fait des films, du reste, très beaux. Et donc, Louis Daquin nous accueillait pas comme ses enfants, mais comme ses protégés, voilà. Et donc, je me suis sentie très bien là. Mais je savais que la sortie serait d'autant plus dure, parce qu'il n'y aurait pas Louis d'Aquin avec moi.
Quand vous dites que ce n'était pas du cinéma à l'IDEC...
D'abord, il n'y avait que des techniciens de cinéma qui nous enseignaient la prise de vue, le montage. Il n'y avait aucun professeur. Hein. Donc j'ai connu des techniciens du vrai cinéma. Hein, c'était déjà exaltant. Et Louis d'Aquin aussi venait du vrai cinéma. Mais je me disais, mais l'après. Et l'après, en fait, Louis nous expédiait carrément, comme stagiaire sur des films. Voilà.
Ce qui fait que très tôt, vous vous êtes retrouvée sur des plateaux de tournage auprès de Jacques Rivette, par exemple. Il y a eu Jacques Rivette, Wim Wenders, Jim Jarmusch.
Il y a eu même...
Robert Enrico.
Voilà, c'est le premier.
Vous avez été assistante de réalisation sur Le Vieux Fusil, par exemple, au tout début de votre expérience professionnelle.
C'était Louis qui avait ce regard sur nous, il nous expédiait comme ça. Et du coup, c'était des mises à l'épreuve, mais c'était peut-être aussi une façon pour certains de ses élèves de nous faire comprendre qu'au fond, ce qu'on nous demandait, c'était peut-être pas dans un premier temps de se dire « je vais faire mon film », mais déjà de vivre, mine de rien, de payer un loyer, de mettre de l'essence dans la 4L pour aller faire des repérages, enfin, vivre.
Et qu'est-ce que vous avez appris d'un point de vue cinématographique de votre métier de cinéaste auprès de ces cinéastes-là, Jacques Rivette par exemple? Vous avez fait un documentaire sur lui pour Arte, Le Veilleur.
Ouais, cinéaste
où il parle
de
filmer. Cinéaste de notre temps, exactement. Mmh. Où il parle de comment bien filmer un visage, ne surtout pas le morceler. Est-ce que ça, par exemple, c'est ce que vous avez gardé de lui quand on voit la manière dont vous filmez les visages, souvent en gros plan, où vous essayez de capter les regards, de ne surtout pas vous défiler des personnages et des visages. Est-ce que ça, par exemple, ça vous vient d'une expérience passée avec Jacques Rivette?
L'expérience avec Jacques Rivette, elle a été forte et très très forte dans ma vie, mais pourtant je n'ai jamais vraiment... était son assistante pendant tout un tournage, puisque le film où il m'a demandé d'être son assistante, après avoir été co-scénariste, c'est un film qui s'appelle Marie et Julien, qu'il a fait 15 ans après, mais qui s'est arrêté au bout d'une semaine parce qu'il a eu une crise d'épuisement. Et donc, je n'ai travaillé qu'une semaine. Enfin, j'ai fait tous les repérages avec lui, dans le 13e arrondissement de Paris. Et j'ai travaillé donc sur le scénario et tout ça. Mais le tournage, ça a été bref. Mais après, on est resté très liés. Je pense qu'il me disait, fais ci, fais ça. Alors, mais quand est-ce que tu fais ton film? Quand est-ce que tu fais ci? Et par exemple, quand est-ce que tu écris tel scénario? Et on se voyait régulièrement. Je crois qu'il m'a donné énormément confiance en moi. Sans lui, je n'aurais pas fait de film. Et ce film, ce documentaire, enfin ce portrait de Jacques Rivette que j'ai essayé de faire, parce que le portrait de Jacques Rivette, c'est quand même peut-être plus que... Du reste, j'ai pas pu le faire en une heure, j'ai fait en deux heures. Mais avec Serge Danet comme interlocuteur, il m'a ordonné, j'aurais jamais eu, je crois que je pouvais pas me dire je vais filmer Jacques Rivette. Il m'a dit, Claire, j'ai accepté d'être filmée pour Cinéaste de notre temps, la collection dirigée par Janine Bazin, alors tu vas le faire toi. Et peut-être qu'il avait compris mon mode de fonctionnement. Une fois que j'étais sommée de faire quelque chose, je le faisais. Alors vous parlez du corps fractionné. Jacques, il aimait pas, c'est pas qu'il aimait pas les visages fractionnés, il aimait pas les corps fractionnés. Même, je crois qu'il dit, contrairement à Jean-Luc Godard, je préfère les plans larges, où on voit quelqu'un des pieds à la tête. Oui, je crois que dans mon premier film, j'ai pensé vraiment beaucoup
Chocolat.
À ça. Oui, parce que c'était un film sur le souvenir. Et il y a eu beaucoup de plans larges où on voyait les personnages des pieds à la tête. Et petit à petit, je me suis enhardie, peut-être, et je me suis approchée des personnages. Et puis, je les faisais au présent, les films. Je les faisais plus au passé.
Qu'est-ce que ça veut dire, filmer au présent, faire du cinéma au présent, Claire Denis ?
Ben, mon premier film, Chocolat, c'était un film... C'était comme un... des morceaux de souvenirs de mon enfance en Afrique. Donc, il me semblait que c'était un peu comme des images lointaines et que je me voyais pas faire de gros plans sur des personnes qui avaient vécu vers les années 60, au moment de l'indépendance. Après, le présent, c'est au fond, c'est ce que j'ai fait après. C'est des films qui se passent au moment où je les tourne. En gros, j'ai pas fait de films d'époque et j'ai pas fait de films de souvenirs personnels.
Chocolat, vous ne diriez pas que c'est un film de souvenirs personnels ?
Si, mais justement, c'est pour ça que je l'ai
après
filmé.
Après Chocolat.
D'une manière lointaine, large.
Alors, il s'est passé quand même beaucoup d'années entre votre sortie de l'IDEC et votre premier long-métrage, Chocolat, en 1988. Pendant tout ce temps, vous avez été assistante de réalisation, oui. Donc pour les cinéastes qu'on a cités.
J'ai tourné en 86, hein, il est sorti en 88, mais oui, c'est long. Mais
qu'est-ce qui vous a manqué pendant toute cette période pour que vous vous lanciez ?
Rien m'a manqué. J'étais très heureuse d'être l'assistante de ces metteurs en scène. Et avant Chocolat, j'ai essayé de faire un autre film qui était l'adaptation d'un livre qui ne s'est pas fait.
De Leïla Sebar ?
Ouais. Il a fallu du temps après pour me rendre compte qu'en fait, je devais commencer par peut-être le début de ma vie, aller au Cameroun, voilà. Que c'était mieux, que c'était peut-être plus juste aussi pour moi.
Ça, vous racontez lors d'une interview.
Mais c'était dur. Un premier film fait par une femme, enfin, c'est-à-dire, je ne veux pas remettre sur le plateau ou sur la table la misogynie, mais ce n'était pas tout à fait... Peut-être qu'on attendait un film de femme plus français, voilà. Partir au Cameroun avec une petite équipe, tout ça, ça faisait peur jusqu'au moment où j'ai trouvé les producteurs.
On va revenir sur cette question du film de femme, de la perception de vos films et de ce que vous avez ressenti de l'accueil critique et du public. Mais avant cela, j'ai lu quelque part que ce qui a donné lieu à l'idée de retourner en Afrique pour faire un film, c'est le voyage que vous avez fait avec Wim Wenders pour le repérage de Paris, Texas.
Oui.
Et que vous vous êtes dit que peut-être que c'était la recherche d'un territoire qui pouvait donner lieu à la recherche d'un film.
J'accompagnais Wim Wenders dans ce repérage et c'était un périple immense et je voyais aussi, comme on était deux dans le véhicule, que même si une partie du film était écrite par Wim Wenders et Sam Shepard, ça voulait pas dire que le film était tout à fait trouvé. Il y avait quelque chose qui devait manquer à Wim pour se dire voilà, je suis prêt à faire, je suis prêt. Et je comprenais cette quête très bien. Et je comprenais que c'était une quête qui n'était pas que géographique, qui était spirituelle aussi. Et je voyais ces paysages très beaux. Je découvrais des paysages tout le sud des États-Unis, de l'Atlantique au Pacifique. Donc c'était assez exceptionnel comme traversée, mais je savais que c'était pas des paysages qui étaient faits pour moi. Je me suis pas dit ah ben non, c'est pas ça. Je me suis dit non, ces paysages au fond me touchent parce qu'ils me parlent du cinéma américain, des westerns, de l'Amérique, de la vie en Amérique, du fait qu'en Amérique il y avait une telle diversité de... On pouvait passer de Dallas à un petit village pas très loin où toute la communauté était allemande d'origine. C'était extraordinaire de faire ce voyage. mais je sentais que moi, je venais d'ailleurs, que je trouverais rien, moi par contre, dans ce voyage. Dans mon lit la nuit, je me disais, bah, je sais où est mon territoire, je connais mon territoire. Voilà. Même si l'Amérique c'est très beau, splendide, impressionnant, cinégénique, moi je venais d'ailleurs. Je le savais.
Vous citez d'ailleurs souvent, Claire Denis, cette phrase que vous a dite Marguerite Duras, sans doute à la même époque, sur le fait qu'il ne fallait jamais que vous oubliez que, comme elle, vous étiez une fille de la colonie. C'était son terme à elle. Comment cette phrase, elle vous a accompagnée pendant le tournage de ce film, par exemple ?
Oh, c'était après Chocolat, en fait. Elle est venue dans une salle de montage où je montais un documentaire avec Dominique Auvray, qui avait été sa monteuse aussi. Et... Marguerite, à l'époque, elle voulait encore croire qu'elle allait réaliser elle-même l'amant. Et elle était persuadée même qu'elle allait le réaliser. Et elle me disait, elle avait demandé à Bruno Nuiten, le chef opérateur, d'en faire les images. Et à moi, elle me disait, tu viendras aussi. Elle était dans la salle de montage, donc elle me disait, tu viendras aussi, parce que tu dois jamais oublier que tu es une fille de la colonie.
Comment cette phrase, elle a résonné en vous, par la suite, dans votre travail ?
Venant de la bouche de Marguerite Duras, je la trouvais, j'allais dire, sacrée. C'est-à-dire, je la trouvais pas désobligeante. Je pensais que nous étions nés là où nous étions nés, qu'on n'avait pas choisi de naître là, mais que du coup, on avait cet héritage-là. Et qu'il fallait l'assumer. Voilà, c'est tout.
Vous en dites que vous avez très tôt eu une conscience d'un ailleurs et que vous êtes, de ce fait d'être une fille de la colonie, comme le disait Marguerite Duras, un être séparé. Comment est-ce que ça s'est traduit dans votre cinéma, croyez-vous, Claire Denis ?
Alors, je pense que j'en ai pas conscience. Quand on fait un film, on est attentif à tout, chaque son, chaque bruit, chaque moment. Et en même temps, un énorme, immense capsule d'oubli de soi, quoi. Comme si le film avait pris toute la place. Donc, je dirais tant mieux. Parce que si j'avais tellement conscience de moi, alors je crois que j'aurais peur. J'aurais peur parce que je me dirais toute chose faite, dite, filmée doit me signifier. Heureusement, non. Je me projette. C'est le film qui compte, pas moi. Et pour revenir au tout début de la question que vous m'avez posée, pourquoi il y a eu tant de temps entre la sortie de l'IDEC et ce premier film, Chocolat? Oui, c'est parce qu'il y avait d'abord beaucoup de plaisir à être l'assistante, et aussi parce que je suis très lente. J'avais un boulot, j'avais un métier. Je savais que le jour où j'allais dire, attention, maintenant je vais faire mon premier film, le banquier n'allait pas courir vers moi, quoi. Je me faisais aucune illusion. Donc, je me disais, il faut travailler, et ce travail me plaisait. Donc, je n'ai pas vécu ça comme un long temps, mais comme mon temps à moi.
Qu'est-ce que vous avez appris concrètement, pratiquement, en termes de cinéma, pendant ces années-là ? Vous parlez de l'absence de scénarios, parfois, chez Rivette, de scénarios très peu écrits chez Wim Wenders. Vous écrivez énormément vos scénarios. Est-ce que, par exemple, vous avez appris de ces années-là qu'il fallait blinder le travail préparatoire, l'écriture ?
Je dirais, j'ai connu toute forme de scénario. Je pense que, par exemple, Jacques Rivette n'avait absolument pas l'impression qu'il pouvait travailler sans scénario. Au contraire, même. Souvent, il convoquait les acteurs à ses séances de travail. Le scénario était écrit. Ce qui n'était pas écrit, c'était peut-être les dialogues ou c'est pas seulement les dialogues. Il aimait l'idée qu'il y avait des rebondissements qui étaient engendrés par ce qui s'était passé la veille ou l'avant-veille. C'est-à-dire que le soir, lui et ses scénaristes, ils se réunissaient pour réécrire, pour écrire le lendemain et le donner aux comédiens. Donc c'était une façon d'affiner le scénario.
Et en ce qui vous concerne, vous, comment vous travaillez vos scénarios? Vous travaillez beaucoup depuis votre premier long métrage avec Jean-Paul Fargeau,
oui,
dramaturge, scénariste aussi, donc depuis Chocolat. Comment est-ce que vous travaillez tous les deux? Est-ce que vous écrivez beaucoup? Est-ce que vous vous empêchez de le faire bouger au fil des séances de travail? Comment vous faites? Et comment vous vous répartissez les rôles, Jean-Paul Fargeau et vous?
Allez, alors là, ça fait beaucoup de questions. D'abord, je dirais que moi, je suis peureuse, je suis craintive, je suis lente. Et d'autre part, il y a une chose qui est nécessaire de considérer quand on va faire un film, c'est qu'il y aura un budget. Et que le budget, c'est un peu l'autre partie du scénario. Le film est au milieu. Et si on est tenu au budget, il vaut mieux avoir un scénario et pas arriver le matin en se disant « que vais-je faire aujourd'hui ?» Même si on n'est pas content d'une scène, même si deux jours avant on se dit « mon Dieu, cette scène est nulle », il faut quand même l'avoir, il faut quand même que ce qu'on appelle le plan de travail du film, c'est-à-dire la durée du film, les lieux où on va tourner, parce que moi je tourne pas en studio, je tourne en décor naturel, enfin sauf le dernier film, je pense que c'est cette structure, toutes les coutures du film, il faut les respecter. Si on explose le plan de travail, on explose le budget, il y a la guerre est déclarée et c'est dur, c'est très très dur et ça devient un problème de résistance. Alors je l'ai fait hein, parfois.
Vous parlez par exemple de ce principe de réalité qui est venu s'imposer à vous dans Beau Travail à Djibouti qui impliquait
Beau Travail, j'ai été très raisonnable, j'ai tourné dans les dates. Non, au début j'avais du mal. Maintenant je sais que c'est important pour moi d'essayer de tenir dans les dates et dans le budget. Pourquoi? Parce que ça me donne peut-être une sorte de paix intérieure. Ça me permet de lutter pour autre chose que du temps. Si j'ai le temps avec moi, je peux lutter pour d'autres aspects du film. Le temps, il faut qu'il soit mon allié. S'il est mon ennemi, ça fait trop d'ennemis. Voilà. Il faut que j'aie le temps de mon côté.
Et alors, en ce qui concerne votre collaboration avec Jean-Paul Fargeau, donc, qui a coécrit avec vous la plupart de vos films, on va revenir sur les autres collaborations après, qui ont été aussi importantes pour vous, mais comment vous travaillez en binôme tous les deux? Comment est-ce que vous partagez le travail? Si toutefois il y a un partage des tâches, comment vous faites pour écrire à quatre
heures? Dans un premier temps, et c'est ça qui a été le mieux pour nous deux, c'est que Jean-Paul vivait à Marseille à l'époque. Donc, j'allais à Marseille. Donc, déjà, j'étais coupée de chez moi. Et donc, on prenait nos repas ensemble. On vivait sous le même toit. Donc, il y avait une forme de... on s'imbibait l'un de l'autre. Et donc, tous les jours, on travaillait en se racontant une scène. Je dirais qu'il y avait cette vie à deux qui faisait naître le scénario. Mais pour ça, il fallait... que à l'origine, que j'ai une envie, que j'ai déjà un peu dit, bah voilà, tu vois, on va aller au Cameroun ou raconter ça et ça, parce que s'il n'y a rien, c'est difficile de partager rien avec quelqu'un.
Là, dans High Life, donc vous avez encore coécrit ce scénario avec Jean-Paul Fargeau,
ouais.
Donc dans une langue étrangère.
On n'était pas dans l'espace. Ni à Marseille.
Je me doute.
Donc, non, on l'a écrit en français.
Vous l'avez écrit en français,
ah,
d'accord.
Oui. Je crois qu'on ne pouvait absolument pas envisager de l'écrire en anglais, même si on parle un peu anglais, mais c'est pas...
C'est une question qui s'est posée, pourtant?
Jamais. Si on n'écrit pas dans sa langue, comment... on peut dire noir ou blanc, mais est-ce qu'on peut donner toutes les nuances du gris qui vont... Vous voyez, non. Je me souviens, par exemple, on a commencé, alors là, pour le coup, par le début, par le jardin, par la description d'un jardin potager dans l'espace. Hein. C'est comme ça que débute le film. Bon, je me souviens, on a dit une fine bruine et dépose ses gouttelettes. Bon. Moi, après, le scénario était traduit en anglais, évidemment. Et après, j'ai tourné en Allemagne, dans un studio en Allemagne. Alors, heureusement qu'on l'avait écrit en français. Parce qu'au début, j'ai eu de la pluie. Ben, je disais non. C'est une fine... Bon, heureusement qu'en français, je savais que je voulais une fine bruine avec des petites gouttelettes qui se déposaient délicatement sur les feuilles. Parce que sinon... Quelle image j'aurais eu du jardin? En effet, j'aurais pu avoir un arrosage régulier, pouf. Non, il fallait qu'il y ait cette espèce de vapeur d'eau qui fasse un petit nuage. Vous voyez, ça, c'est des choses qui viennent avec les mots.
Vous accordez beaucoup d'importance à l'écrit, au scénario écrit et aux mots, comme vous venez de le dire. Et lorsque vous ne travaillez pas avec Jean-Paul Fargeau, vous travaillez vos scénarios avec des écrivains et... des écrivaines, en fait. Emmanuel Bernheim pour Vendredi soir, que vous avez réalisé en 2002. Puis il y a eu Marianne Guy pour White Material en 2010. Christine Angot pour Un beau soleil intérieur en 2017. Ces écrivaines-là, en quoi elles vous ont touché, chacune à leur manière? Et pourquoi avoir eu envie de construire un film avec leurs mots, leur univers, peut-être?
Claire Denis. Chacune. Que ce soit Emmanuel Bernheim, Marine Diaye, Christine Angot, les raisons sont incroyablement différentes. Emmanuel, je l'ai rencontré grâce à un ami, Olivia Sayas, qui m'a présenté Emmanuel. Et je l'ai immédiatement aimé. Je dirais aimé même physiquement, comme quelqu'un de si différent de moi, grande, brune, costaud, solide. Donc, j'ai commencé déjà par aimer cette amie d'Olivia Sayas. Et puis, un jour, en parlant d'un projet qu'on aurait pu avoir ensemble, mais qui n'était pas du tout abouti, elle m'a fait lire un manuscrit. C'était le manuscrit de Vendredi soir. Et elle me l'a fait lire parce que, dans un café, un jour, elle me dit « Mais au fond, toi, qu'est-ce que t'aimerais filmer ? Parce que t'as pas l'air d'avoir envie de faire ci ou ça. » Je lui dis « Oh, moi, l'idéal, pour moi, c'est un homme, une femme, seul dans une voiture. Ça me va très bien. J'ai pas besoin de grands espaces. » Et alors, elle me dit « Oh, ça, c'est incroyable. Je vais te faire lire mon manuscrit. » Et c'était vendredi soir. Voilà.
Donc, l'histoire de Valérie Lemercier, donc Laure et
Vincent Lindon. Oui, d'une femme qui prend en stop quelqu'un qui se rencontre pendant la grève des métros en 95. Et voilà, interprété par Valérie Lemercier et Vincent Lindon pendant une nuit, un vendredi. Marine Diaye, c'est différent. Non pas que Marine Diaye n'est pas une... Elle est une femme puissante aussi. Mais Marie, depuis son premier roman, j'allais dire, j'étais une fidèle lectrice. Et un jour, un producteur qui m'a demandé... ou plutôt Isabelle Huppert voulait tourner en Afrique avec moi et elle voulait que j'adapte une nouvelle de Doris Lessing. Et je lui ai dit que non, j'avais pas trop envie. Parce que c'était quelque chose que j'avais un peu fait, le passé de l'Afrique. Et le producteur avec qui je travaillais m'a dit « Mais vous aimez qui ?» Et je lui ai dit « J'aimerais bien rencontrer Marine Diaye. » Et avec Marie... je lui ai dit que j'avais envie de raconter l'histoire d'une plantation de café, parce qu'il y avait à l'époque, en Côte d'Ivoire, une sorte de pré-guerre civile entre le Nord et le Sud, et j'avais vu à la télévision l'armée française conseiller aux planteurs de café ou de cacao français d'accepter le rapatriement immédiat. Et j'en avais vu un vieux monsieur, qui faisait un bras d'honneur aux militaires en disant « jamais ». Et voilà, je suis partie de ça pour Isabelle, et c'est sur ce projet que j'ai travaillé avec Marie. Peut-être c'était comme l'inviter à partager cette aventure d'une plantation de café que ni elle ni moi ne connaissions. Donc on a visité des plantations de café avant.
J'ai l'impression, Claire Denis, que vous êtes assez frileuse à l'idée d'adapter des textes déjà existants si vous ne pouvez pas rencontrer leur auteur. Là, vous parliez de Doris Lessing, que vous n'avez pas voulu adapter pour Isabelle Huppert. Il y a eu aussi Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, qu'on vous a proposé d'adapter pour faire un beau soleil intérieur.
Non, j'ai jamais moi. Non. Doris Lessing, je considère... Elle était encore vivante.
Oui,
j'aurais
sûr,
adoré
la rencontrer.
Mais je trouvais que Perdu dans la brousse, je crois, The Grass is Singing, correspondait trop à des choses que j'avais déjà évoquées dans Chocolat. Et puis Roland Barthes, quand on m'a proposé d'adapter un fragment, moi je travaillais déjà avec Christine Angot. J'avais, grâce à France Culture, je crois, j'avais été écouter des lectures à Avignon, où Christine Angot avait une carte blanche. Et j'ai écouté une lecture interprétée par deux comédiens, Nora Krief et Alex Escas. Et en sortant de la lecture, j'ai dit à Christine, mais c'est fou, moi je peux... On me dit demain, filmer ça. Je dis, mais c'est un film, moi je peux le faire tout de suite. Et en fait, à l'époque, je travaillais au Frénois, l'école d'art qui est près de Roubaix, animé par Alain Fleischer, et j'ai dit à Christine, mais si, je te le prouve, quoi, on va le faire au Frénois, voilà. Et à ce moment-là, quand on m'a proposé d'adapter un fragment...
C'était Agonie,
principalement. Ah non, alors ça, c'est différent. J'ai dit au producteur, oh là là, non, je peux pas, parce que le seul dont je me souviens vraiment, c'est Agonie, donc ça, c'est pas possible. Non, il faut pas. Et je lui ai dit, peut-être avec Christine... On peut te proposer quelque chose qui serait des fragments à nous. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait.
On peut dire que vous laissez ces écrivaines-là, que ce soit Marie-Anne Diaye pour White Material ou Christine Angot pour Un beau soleil intérieur, vous attirez vers leur propre univers. Vous disiez de Marie-Anne Diaye qu'elle vous avait donné des mots, que par exemple le mot marmaille dans le film, c'était un mot à elle. Que, par exemple, dans Un beau soleil intérieur, on retrouve des scènes du marché aux amants, un roman de Christine Angot. Est-ce que vous les laissez vous attirer vers leur domaine? Est-ce que c'est ça que vous recherchez en travaillant avec ces écrivaines? De quitter votre chez vous cinématographique pour aller vers un ailleurs qui serait le leur?
Je pense que Marie, elle est venue. Non seulement elle est venue vers moi, mais on est allé visiter des plantations de café en Afrique. Donc elle avait fait un tel trajet vers moi. La moindre des choses, c'était que je vénère ces mots. Et le mot marmaille, disons que il m'a aidé énormément. Je voulais pas d'enfants soldats. Je disais à Marie, les enfants soldats, rien que ce mot me fait mal. Et donc elle m'a dit, c'est de la marmaille. Tout d'un coup, c'était simple. Et j'ai toujours pensé que c'était de la marmaille. Comme on dit, c'est la marmaille.
Ça dématérialisait, ça...
C'est des enfants.
Ça désensualisait.
Quand on dit les enfants soldats, tout d'un coup, il y a quelque chose de terrible qui surgit dans la tête des enfants qu'on a transformés en tueurs ou en martyrs. Alors que la marmaille, ça dit exactement ce que c'est. C'est des tout petits, c'est de la marmaille, c'est de la chair à canon. C'est tendre, la marmaille. Ça souffre, c'est tendre. Ça a besoin d'être nourri. Ça a besoin d'être dorloté. Ça a besoin d'être mis au lit de bonheur. La marmaille, c'est ça.
Je voudrais qu'on parle, Claire Denis, pour le temps qu'il nous reste de cette masterclass au Studio 105 de la Maison de la Radio.
Je ne sais pas si c'est une masterclass, mon Dieu.
Si, ça en est. Qu'on parle de ces visages et de ces corps qui habitent votre cinéma. Tout à l'heure, on y faisait allusion lorsque vous parliez de Jacques Rivette. Vous, il y a des corps et surtout des visages qui reviennent dans votre cinéma. On peut parler de Grégoire Collin, on peut parler d'Alex Descas qui a joué dans 7 de vos films, Michel Subor, Juliette Binoche dans les 2 derniers. Donc, des visages qui reviennent. Qu'est-ce que vous recherchez dans les visages de vos acteurs pour les faire revenir, Claire Denis?
Je crois qu'au départ, je cherche pas grand-chose. Il y a quelque chose qui se déclenche et qui fait que ce moment quand même assez invraisemblable où on sait qu'on va travailler avec cette actrice ou cet acteur ou quelqu'un qui est amateur du reste, hein, cet impact, c'est bon de le renouveler, je crois. Il n'y a pas de raison de pas le renouveler parce que c'est un pacte qui est noué et qui est puissant.
Mais qu'est-ce qu'il se passe quand vous voyez les visages, quand vous voyez ces visages, qu'est-ce qu'il se passe en vous ?
La reconnaissance. Je reconnais qu'avec eux, je vais avoir envie de les filmer. Je reconnais qu'avec eux, je vais ressentir du désir. Je reconnais qu'avec eux, je vais ressentir une crainte aussi, une crainte de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils me laissent entrevoir d'eux-mêmes.
Qu'est-ce que vous avez vu par exemple en Grégoire Collin qui a nourri votre cinéma ?
Ce que j'avais ressenti moi dans mon adolescence, cette envie de surprendre, d'emmerder le monde, de ne pas être là où on m'attendait. Pas parce que je me trouvais originale, mais parce que je savais pas où était ma place. Donc il y avait en Grégoire ce doute, et cette irrésolution. On pourrait dire pas tout à fait, il n'était pas tout à fait fini comme jeune homme, mais en même temps je voyais cette puissance d'évocation. Et je le trouvais très beau aussi. Et ça compte beaucoup, la beauté. La beauté à mes yeux.
Vous dites d'Alex Descaz, par exemple, qu'il participe à l'équilibre fictionnel de vos films et que vous avez besoin qu'il soit d'accord avec vos films. Est-ce que le visage d'un acteur peut faire évoluer un scénario, Claire Denis ?
Tout à fait. Oh ben quand j'ai fait 35 Roms, qui était au fond peut-être la copie d'un film d'Ozu et aussi l'histoire de ma mère et de mon grand-père, mais personne d'autre pouvait interpréter cet homme-là, le père des films d'Ozu ou mon propre grand-père. C'est-à-dire, c'était la loyauté, la fidélité, la masculinité, l'homme rêvé, l'homme idéal. Et en effet, j'avais besoin de l'approbation d'Alex, de personne d'autre.
Et est-ce que justement Alex Descaz, pour ce rôle de père dans 35 Roms, vous a dit « Non mais en fait ce personnage, il faudrait qu'il aille plutôt dans telle direction, ou qu'il soit plutôt comme ça, est-ce que ça peut se passer comme ça ?»
Oh, il aurait très bien pu, bien sûr.
Il ne l'a pas fait.
Si, il l'a fait. Je pense par exemple au moment de la scène de la danse, avec sa voisine puis sa fille, je savais, et Agnès Godard, la chef opératrice, on savait que il fallait qu'on soit prête à suivre Alex. Bien sûr que si. Mais Alex, il n'a pas besoin de dire. Il indique d'une autre manière, il fait comprendre d'une autre manière qui est le personnage. Le geste. Tout d'un coup, je pense à Alex en train de faire cuire une omelette dans la cuisine dans 35 Roms. Ben, je sais que c'est la plus belle manière de faire cuire une omelette. Il n'y a pas besoin de lui dire « Tu vas battre les œufs comme avant, Alex. » Non. Alex, il est l'interprète idéal de l'homme qui sait faire cuire une omelette. L'interprète idéal de l'homme qui sait inviter une femme à danser. L'interprète de l'homme qui sait regarder sa fille travailler. Tout ça, Alex sait le faire. Comme, à mes yeux, personne.
Est-ce que vous avez besoin, Claire Denis, de beaucoup faire répéter ou ça se passe vraiment au moment de filmer ? Est-ce qu'il y a des séances de travail ?
Non. Je l'ai fait un peu au début. Au moment de S'en fout la mort, peut-être un peu. Parce qu'on avait très peu, pas beaucoup de jours de tournage, mais j'ai vite compris que je gâchais quelque chose qui allait arriver avec Isaac de Bancolé, Alex Descaz.
Vous saviez que de toute façon,
vous n'aviez pas... J'ai du mal à dire le nom de cette actrice.
Solveig Domartin ?
Solveig, parce que je pense que Solveig est restée toujours cette jeune femme pour moi. J'ai l'impression que c'est totalement incroyable qu'elle, qu'elle soit morte si jeune, ça me... Mais en effet, je voulais pas que ce trio, puis Jean-Claude Brialy... Enfin, je voulais pas qu'on use les scènes, voilà. Je voulais... Alors, on répétait des scènes que je piquais dans des bouquins, ou dans d'autres films. Voilà. Pour faire connaissance. Pour Beau Travail, on a fait des exercices physiques ensemble, avec un ex-légionnaire. C'est-à-dire, il y a un moment où, si on aborde trop tôt certaines scènes, on les use un peu. Juliette, par exemple.
Juliette Binoche.
Binoche, elle a besoin de répéter elle, mais pas avec moi. Elle fait son travail elle. Et elle arrive avec son baluchon bien rempli de son propre travail. Et moi, j'ai le mien aussi. Et on se rencontre comme ça. Mais on n'use pas notre matériau.
Il y a le corps des acteurs et puis il y a le vôtre aussi en tant que cinéaste. Vous avez dit au moment de Beau Travail que même si vous n'étiez pas très sportif dans la vie, vous aviez acquis un corps de légionnaire. Et vous parlez de vos séances de travail. Là, à l'instant.
Alors, c'est pas tout à fait vrai. J'avais un père très sportif qui a fait de nous, de ses enfants, envers et contre tout, des semi-sportifs, parce qu'il nous a poussés. Enfin, mais j'avais une très belle excuse. J'étais asthmatique enfant. Donc ça me protégeait un peu. Mais quand même, j'ai gardé en moi les traces, l'idée qu'il y a dans l'exercice physique. J'adore la danse, j'adore la chorégraphie. Je pense que sans exercice physique, il n'y a pas grand-chose, que les déplacements... j'ai adoré courir, par exemple. Pendant très longtemps, j'ai couru tous les matins. Et je pense que... corps de légionnaire, non. Mais ces exercices que nous faisions tous ensemble... oui, je faisais mes pompes,
Vous aviez besoin de vous engager corporellement aussi ce film.
Ah oui. Agnès aussi, du reste.
Agnès Godin.
On se voyait pas
votre chef
être là comme des grosses mollassonnes dans ce désert brûlant, aller regarder. Non, il fallait que... Mais c'est pas qu'on ait souffert physiquement, non. Il faut... Vous savez, le corps, quand on fait un exercice, le trajet nerveux vient directement au cerveau. Quand on court, on le sait. Hein. Ça donne des endorphines. Ben, les pompes aussi, les exercices aussi. Donc ces trajets nerveux de l'exercice, des exercices physiques que pratiquent les légionnaires que nous étions en partie pour le film, je dis bien en partie, il fallait qu'ils ressentent ces endorphines. Parce que sinon... si c'est que de la souffrance, ça ne... C'est rien. Comme la danse.
Que l'on voit d'ailleurs à la fin de ce même film, Beau Travail. Denis Lavant qui danse.
Ouais.
Légionnaire Denis Lavant qui danse.
Mais j'ai filmé aussi une grande chorégraphe, Mathilde Monnier, parce que je trouvais que on ressent le trajet de la... Le trajet du système nerveux. Il irrigue le corps. Et on ne peut pas imaginer l'immobilité quand on fait des films. La marche, la démarche, les gestes, tout.
Tout concourt.
C'est pas ça. Concourir, tout habite le plan. Voilà.
Pour le peu de temps qu'il nous reste, Claire Denis, pour cette masterclass donc, au Studio 105
c'est
de la Maison de la Radio.
C'est un monde terrifiant.
Hein. C'est un monde, un mot terrifiant. Mais vous m'aviez dit aimer beaucoup faire les masterclass pourtant.
Que j'aimais beaucoup.
Oui, la première fois que je vous ai contactée.
Non, je vous l'ai dit avec humour, je crois. Au second
degré.
Non, parce que... Masterclass, pour moi, ça fait penser un petit peu aux masters, aux gens qui jouent au golf. Et classe, j'aimais pas aller en classe. Donc, vous voyez...
Alors, on va arrêter de dire ce mot.
Non, parce que c'est impressionnant un peu, voilà. Voilà. Mais bon, j'essaye de parler du travail, voilà.
Parlons de votre travail.
Voilà, ça, j'aime beaucoup.
Continuons.
Ouais.
Et donc, continuons avec la musique, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans votre travail de cinéaste, et notamment votre collaboration avec Stuart Staples et les Tindersticks, donc le groupe dont il est leader. Les Tindersticks qu'on entend aussi, y compris dans votre dernier film, High Life. Donc, et vous parlez d'une collaboration qui se nourrit de votre travail et du sien, c'est-à-dire qu'il compose pour vous. Est-ce que ces compositions à lui, Stuart Staples, ont pu faire bouger là aussi l'écriture de votre scénario?
Parce que quand j'ai demandé, la première fois que j'ai demandé à Stuart si je pouvais lui emprunter une chanson, il était en concert au Bataclan.
C'était
avec son groupe,
c'était au moment
pour
de
Nénette et Bonnie. C'était une chanson qui s'appelait My Sister, et il m'a dit oh mais ça serait beaucoup mieux si on pouvait faire plus que faire la musique du film, venir. Donc ils sont venus voir le tournage, ils sont venus au montage. Il y a eu toujours un, et d'emblée, en venant au montage, ils ont déjà, ben on a Yann Dedet, le monteur, et moi, on a d'emblée modifié des séquences du montage. Je me souviens d'une séquence qu'on avait coupée, et Stuart est arrivé en disant mais on a composé une musique pour cette séquence, vous pouvez pas la couper. Donc on l'a remise.
Quelle séquence du coup?
Une séquence avec Valeria Bruni Tedeschi qui propose des gâteaux à Grégoire Collin. Et alors on a remis la séquence. Et on a été heureux de la remettre, évidemment. Et en fait, il y a toujours eu cette porosité. Et Trouble Every Day, il m'a dit, tu sais, j'ai écrit une chanson pour le générique de fin. Je l'ai écoutée dans la salle de montage avec Nelly Quétier, qui montait le film, et lui. Et j'ai dit, mais bien sûr que non, c'est le début du film. Alors on avait commencé le film par... une scène dans l'avion avec Vincent Gallo, comme le scénario. Et en fait, on a changé. On a changé pour que la chanson soit au début. Donc, voilà, le 35 Roms, j'avais dit, oh ben là, je crois qu'il n'y aura pas de musique, juste le bruit des trains. Et finalement, il a dit, écoute, à tout hasard, j'ai apporté une musique. Et évidemment, c'est là. La musique du film.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans 35 Roms, sur l'affiche du film, il y a le titre, votre nom et les Tindersticks. Même pas le nom des acteurs. Donc c'est comme si...
J'ai oublié.
Ou alors c'est l'éditeur de l'affiche qui a oublié. Mais en tout cas, ce sont deux seuls noms qui reviennent pour 35 Roms, comme s'ils avaient participé à la construction du film. Mais peut-être que c'est involontaire, du coup.
C'est peut-être moi, tout d'un coup, qui ai dit, bah tiens, voilà, je sais plus. Vous savez, les affiches, ça m'échappe un peu. Et tout d'un coup, j'ai très peur, parce que je crois que l'affiche de High Life a été finie vendredi. J'espère que Tindersticks est en assez gros. Oh là là, tout d'un coup, j'ai une...
Juste une dernière question sur les Tindersticks.
Dans High Life, ils ont fait plus que la musique. Ils ont fait le dessin sonore du film.
Ils ont été aussi ingénieurs du son, c'est ça que vous voulez dire?
Non. Ingénieurs du son, non. Ils ont fait le dessin sonore en anglais, ça s'appelle sound design. Voilà. Et l'ingénieur du son, non.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette musique, la première fois que vous l'avez entendue? Pourquoi il a fallu que vous travailliez aussi étroitement avec ces musiciens-là pour composer après, pour construire vos films?
Dans High Life?
Non, au tout début. Au moment de Nénette et Bonnie.
Il me plaisait. J'aimais leurs deux. Enfin, c'était le deuxième disque, donc je suis allée les écouter au Bataclan. Et puis déjà que je les trouvais merveilleux en les écoutant, enfin, je trouvais que c'était des musiciens qui m'impressionnaient, vous savez, la musique, quand on l'écoute, elle change quelque chose. Moi, elle change. La musique a toujours changé quelque chose en moi. Et donc, je les ai vus sur scène. Je me suis dit bon, ben, ça confirme ce que j'ai ressenti. Et finalement. À chaque fois, ça s'est confirmé. Chaque fois, je dis à Stuart, tu n'es pas obligé. Je t'envoie le scénario traduit en anglais, mais tu n'es absolument pas obligé si tu ne l'aimes pas. Et à chaque fois, je ne sais pas si ça l'intéresse, mais il y a une possibilité. Voilà.
Une toute dernière question pour cette séance de discussion sur votre travail, Claire Denis, au studio 105 de la Maison de la
Radio. Vous savez, je voudrais dire que Stuart, non seulement la musique me modifie moi profondément quand j'en écoute, mais Stuart aussi me donne confiance. Stuart, s'il me dit oui, s'il me dit qu'il a confiance, alors j'ai encore plus confiance, vous voyez. Il devine aussi quelque chose de mes films. Dans High Life, je crois qu'il a deviné quelque chose de mon film. Il devine. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire... il n'est pas... Oui, comme beaucoup de musiciens, il devine ce que il lit dans le scénario, ce qu'il entrevoit.
Il vous donne des pistes par ses musiques, de ce qu'il entrevoit.
Oh, High Life, la musique était faite avant le film.
D'accord. Alors, juste une dernière question. Dans votre filmographie, vous dédiez souvent vos films à des gens. Il y a beaucoup de noms à la fin, au début de vos films. Est-ce que vous avez besoin de vous adresser à quelqu'un, de penser à des visages en particulier pour écrire ? Est-ce que vous avez besoin de vous adresser, Claire Denis, pour faire un film ?
Non. C'est que parfois... je m'aperçois que quelqu'un a manqué ou va me manquer. Et dans mon dernier film, il y a plusieurs personnes qui ne sont plus de ce monde et qui ont compté pour moi beaucoup. Ma mère, en particulier, qui est morte pendant le tournage. Un petit neveu, un bébé. Et voilà... je crois que c'est pas que des morts, hein. Il y a aussi des vivants. Mais, par exemple, une fois, j'ai dédié un film à Agnès B. Travel Every Day, elle m'a aidée à le finir. J'étais arrivée à court d'argent, et Agnès B a aidé à finir le film. Voilà. Donc c'est important. C'est des gens qui comptent pour moi.
À quel moment la question du pour qui, elle intervient dans la construction d'un film, dans l'écriture ou dans le tournage d'un film ?
Pour qui ? Souvent, je pense à des écrivains. Par exemple, je pourrais dire, souvent je me dis, oh là là, si je pouvais dédier ce film à William Faulkner, si seulement je pouvais... il est là, c'est un écrivain qui, c'est prétentieux de parler de William Faulkner parce qu'on se dit, oh là là, mon Dieu,
pour qu'elle se prend. Peut-être qu'il a beaucoup compté pour vous en tant que lectrice, vous l'avez beaucoup lu.
Ben oui, parce que je trouve que c'est un écrivain qui réveille tellement d'émotions physiques, on ne peut pas dire. Vous savez, parfois on dit les intellos avec mépris. Je peux dire que s'il y a un écrivain qui réveille le physique, les sensations physiques, c'est vraiment lui, absolument.
Donc le pour qui, ce serait principalement des écrivains, ouais. Des gens qui vous auraient inspiré.
Parfois, dans High Life, je pensais à dans Roméo et Juliette de William Shakespeare. Le hasard a fait que j'avais un exemplaire de Roméo et Juliette en anglais sur mon bureau et je l'ai emporté en Allemagne et je trouvais que la façon dont le père de Juliette parle à sa fille Juliette pour lui dire ne tombe pas amoureuse de ce Capulet. Comment ce père parle à sa fille m'inspirait beaucoup. Il lui parle dans ce langage. Vous savez, les personnages de Shakespeare, ils ont un langage tellement imagé. Il parle à sa fille et lui dit « My little baggage ». Mon petit bagage. Je trouve mon petit poids mort, quoi. Tu me pèses tant. Je trouve ça beau. C'est déjà, on voit la scène.
Merci beaucoup, Claire Denis.
Vous en prie.
Vous aviez amené plein de bouquins, vous m'avez dit ce sont des gris-gris.
Alors il y a un livre qu'a écrit Jean-Luc Nancy avec Federico Ferrari qui s'appelle La fin des fins. Et je trouvais que ce livre, aux éditions Quimet, et ce livre, ce n'est ni la fin ni le commencement, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec High Life. Alors j'ai amené dans une édition La Différence, bilingue, L'Aude maritime de Fernando Pessoa, que j'avais vu mis en scène, vous l'aviez vu aussi, hein, à Avignon.
Vous l'avez appris par cœur, m'aviez-vous dit.
Avec Jean-Quentin Châtelain, mis en scène par Claude Régis. Et oui, Jean-Quentin Châtelain l'a dit d'une traite, cette ode. Et du coup, pendant 2 ans, je l'avais dans mon sac pour chaque jour en apprendre 10 ou 15 vers. Voilà. Et je pense que l'Aude maritime, c'est vraiment comme un scénario. C'est un homme qui est sur le quai de Belém à Lisbonne et il voit un bateau tout petit, un petit point noir. Et ce paquebot s'approche et ça prend 2 heures et c'est l'aube et quand le paquebot accoste, c'est le matin et la ville s'est réveillée. Et c'est exactement la durée d'un film, voilà. Alors j'avais amené quoi ?
Marguerite Duras, justement ?
Oui, j'avais apporté des entretiens. Léopoldina Palota della Torre avait fait un entretien avec Marguerite Duras qui s'appelle, le livre s'appelle La passion suspendue et c'est au seuil. Et elle parle beaucoup de ses films et elle parle de filmer le désir. Et puis quoi d'autre ? Il y a dans mon petit panier. Bon, je crois que c'est tout. Non. David Foster Wallace. J'avais entendu parler lui par Jim Jarmusch. Et c'est un poème qui s'appelle « This is water », c'est de l'eau.
On va arrêter sur ces très jolis mots. Merci beaucoup à tous.
Merci à vous.
C'était la masterclass de Claire Denis avec Émilie Chaudet. Attaché de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.